Je n'ai jamais vu Lee être méchant ou cruel. Chaque année, pendant toute la durée des vacances, le moment où il a été le plus cruel avec moi, où je l'ai vu être cruel tout court, c'est quand il était avec ce garçon, cette nuit-là, en 1962. Ils avaient monté une tente et allumé un feu de camp. La voiture était garée un peu plus loin, dos au feu. Ils préparaient à manger. J'ai passé un moment près du feu. Alors, l'autre garçon m'a dit, « Il y a un corps dans la voiture. » Et je ne me souviens pas de ce que j'ai dit. J'ai dû faire preuve d'un peu d'incrédulité, car je me souviens m'être retrouvée devant. Ils ont ouvert le coffre et on a regardé à l'intérieur. Il y avait juste des bidons d'essence ou des bidons d'autre chose. Je ne sais pas. Et quelques autres trucs. Et alors, peut-être que je l'ai pris à partie. Je ne me souviens plus, mais j'ai peut-être dit quelque chose comme « t'es un menteur ». Parce que, il s'est ensuite dirigé vers le siège arrière de la voiture. Vers la portière arrière gauche de la voiture. Il a ouvert la portière. Puis, il m'a dit de regarder. J'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait une bâche ou une couverture. J'ai vu qu'il y avait des bosses en dessous. Mais je n'arrivais pas à y croire. Je crois que j'ai dit un truc comme « c'est pas vrai ». C'est alors que Lee m'a appelé de l'autre côté de la voiture. Il avait ouvert la portière et m'a dit « viens ici ». Et il a soulevé Il avait les cheveux mouillés et ses yeux. Je ne voyais pas ses yeux, mais je voyais son crâne et ses cheveux mouillés. Et je me souviens avoir regardé d'un peu plus près et avoir vu un visage. C'était un Européen. Je ne me souviens plus de ce qui a été dit, mais je me rappelle de ça. Tu ferais mieux de rentrer chez toi, petite fille, ou je pourrais aussi t'enfoncer un truc dans le cul. Et je pourrais t'enterrer, te tuer et t'enterrer, comme pour lui. Alors je me suis tournée vers lui pour chercher de l'aide. Mais il avait juste cet air. Un air. De défi sur le visage, comme je ne l'avais jamais vu auparavant.
Ces événements sont restés sans suite depuis 1962. Le Lee évoqué par cette femme purge actuellement une peine de prison à vie pour un meurtre commis en Tasmanie en 1975, 13 ans après l'incident qu'elle a décrit.
J'ai passé près de 20 ans au sein de la police de l'État de Victoria, principalement à la brigade des crimes majeurs. J'ai travaillé sur l'affaire de la commission Costigan, l'hôtel Hilton, le consulat turc et les attentats à la bombe de Russell Street. Juste après, je suis rentré en Tasmanie en 1998. J'ai lu un article dans le Hobart Mercury. Il parlait de certains prisonniers de la ferme pénitentiaire de Hayes qu'on autorisait à aller pêcher dans la rivière Derwent le week-end. L'article se focalisait sur un prisonnier particulier, James Ryan O'Neill. Il purgeait une peine de prison à vie pour le meurtre d'un garçon en 1975. Ce type était fascinant. Il est arrivé en Tasmanie en novembre 1974, puis a assassiné un garçon de 9 ans, à Eagle Hawk Neck, début février 1975. En avril, il a tué un autre garçon. Et dans les 2 mois qui ont suivi, il a commis des tentatives d'enlèvement sur au moins 5 autres garçons. C'était un schéma très précis. Et, d'après mon expérience, on ne commence pas à tuer et à enlever des gens alors qu'on vient tout juste d'arriver dans un nouvel état. Il devait y avoir eu des crimes antérieurs. J'ai écrit à Jim pour lui parler un peu de moi. J'ai dit que j'aimerais lui rendre visite à Hayes pour lui parler de sa vie. Il a tout de suite répondu qu'il acceptait. C'est ainsi que j'ai commencé mon voyage. Alors, Jim, vous avez passé plus d'un quart de siècle dans le système pénitentiaire. Près de 26 ans et demi. Comment cela s'est passé?
Eh bien, je n'ai pas pris une ride. J'ai délibérément arrêté de fêter mon anniversaire à mon arrivée.
Quel âge aviez-vous lorsque vous êtes arrivé en prison?
27 ans.
Et maintenant 54?
Oui, je suis né à Melbourne, en 47. Je suis allé à l'école, au Scotch College, à Caulfield Grammar. Le Scotch College. C'était un internat de bourgeois. Ça ne me plaisait pas.
Aimiez-vous aller à l'école?
Non. Non. Et encore non. Je suppose que j'ai eu une enfance relativement normale et sans histoire. Mon père était dans l'immobilier et je l'ai suivi dans cette voie après mes études. Nous partions en vacances chaque année et on allait pêcher. Un de mes endroits préférés, où je suis allé très très jeune, c'était la rivière Johanna, dans le district occidental de Victoria, la région du Cape Otway. On allait y faire du camping au moins une fois par an. On connaissait tous les agriculteurs et les familles de la région.
Et, par hasard, est-ce que l'un de ces agriculteurs avait, dirons-nous, de jolies filles?
Vous avez l'esprit mal tourné, vous le savez? Oui, c'était le cas. J'ai dit au début que j'avais appris à pêcher, à tirer au fusil et d'autres trucs. Et les autres trucs? Oui, ils avaient beaucoup à voir avec l'une des filles de ce fermier. En effet.
Je devais avoir 6 ans. Quand j'ai vu son père, le père de Lee l'a appelé d'un ton très dur, exigeant et autoritaire, comme un sergent de l'armée. Lee, viens ici. Et je me souviens d'avoir vu Lee se diriger vers son père, avec de la peur dans les yeux. Son père avait un bâton d'environ 30 cm dans les mains. Il a attrapé Lee par le bras. Et il a commencé à lui donner de violents coups de bâton, si violents qu'il le projetait dans les airs.
Votre père et votre mère n'étaient apparemment pas très heureux ensemble.
Non.
Corrigez-moi si je me trompe. Votre mère avait un problème d'alcool?
Oui, et c'est toujours le cas.
Oh, c'est toujours le cas. Le père de Jim O'Neill avait été prisonnier de guerre. Il avait beaucoup de problèmes. La mère de Jim était beaucoup plus jeune et avait apparemment un gros problème d'alcoolémie. Ils avaient de grosses disputes et la police a dû intervenir plusieurs fois à leur domicile à Brighton. Jim a abandonné ses cours d'agent immobilier de la Prarantech. Il est devenu marchand d'armes. C'est à cette époque qu'il s'est trouvé mêlé à des figures notoires de la pègre. Des gens comme George Joseph, celui qui a fourni l'arme qui a tué Donald Mackay, l'homme politique opposé au trafic de drogue.
Je me fiche de ce qu'on dit. C'est un bon gars.
Quelles sont les autres personnes avec qui vous avez eu des contacts?
Dans une bien moindre mesure, Trimble. Une pseudo-mafia, vous voyez? Ils aimaient montrer ce genre d'attitude. Il y avait tant de choses à Melbourne qu'on n'a jamais su. Seules les personnes concernées étaient au courant, et j'avais grandi à Melbourne, j'avais fréquenté de bonnes écoles, etc. Mais je n'avais aucune idée de ce qu'il s'y passait vraiment. Et tout à coup, j'ai découvert un monde où l'on pouvait acheter les juges, où l'on pouvait acheter les policiers. Ils n'étaient pas juste achetés. Ils étaient activement impliqués dans des activités criminelles.
J'ai eu l'impression que Jim aimait se faire de l'argent facile. Il s'était trouvé une nouvelle voie. Il a commencé à acheter des opales brutes et à les vendre à des bijoutiers de Melbourne. Il devait bien gagner sa vie, car il a fait de nombreux road trips jusqu'à Coober Pedy, entre 65 et 67. Combien de ces voyages est-ce que vous pensez avoir fait, selon vous ?
C'est difficile à estimer exactement. Mais il y en a eu beaucoup. 15. Peut-être plus.
Et combien de véhicules ont rendu l'âme au cours de cette période ?
7 ou 8.
Bon sang.
Vous pouvez vous retrouver coincé au milieu de nulle part. Vous pouvez marcher des jours sans croiser personne. J'ai déjà fait des voyages dans cette région où, après avoir quitté Port Augusta et pris la direction de Woomera, je n'ai plus croisé un seul autre véhicule pendant tout le reste du trajet. Toutes ces histoires d'horreur sur Coober Pedy. Je sais que c'était vrai, et c'est même arrivé pendant que j'étais là-bas.
Quel genre d'histoire d'horreur est-ce que vous avez entendu ?
Eh bien, des gens disparaissaient.
On parlait de Coober Pedy, et il s'est fermé comme une huître. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait ça. J'ai commencé à me dire, qu'est-ce qu'il a fait au milieu des années 60, en Australie méridionale, qu'il ne veuille pas que je sache. Tout au long de nos discussions, Jim a affirmé qu'il n'avait jamais eu d'ennui avec la police, avant son arrestation en Tasmanie, pas même une contravention pour excès de vitesse. J'avais entendu parler d'un incident avec des enfants dans l'état de Victoria, mais je n'avais jamais eu d'éléments concrets. Et puis, un jour, sans réelle raison, il m'a donné une copie de son évaluation pour liberté conditionnelle de 96. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Car en page 3, figurent les détails de 12 accusations à son encontre, pour enlèvement et attentat à la pudeur, sur 4 garçons à Melbourne en 1971. J'ai passé beaucoup de temps avec Jim O'Neill, et j'ai eu l'impression de me rapprocher un peu trop de lui. J'ai donc voulu voir s'il parlait plus ouvertement à quelqu'un qu'il n'avait jamais vu avant.
J'ai lu l'ensemble du dossier, et le rapport de la commission de libération conditionnelle mentionnait des accusations concernant des incidents avec des garçons à Melbourne.
Je ne peux pas vous dire.
D'accord, d'accord.
Je suis tenu à...
La confidentialité.
Ok.
Vous avez pu vous entretenir avec la commission ?
Oui.
Ont-ils laissé entendre que vous étiez sexuellement intéressé par les garçons ? Et avez-vous pu répondre à cette question ?
Je l'ai nié et j'ai dit. Aucun incident à ce sujet n'a été prouvé.
Comment décririez-vous votre sexualité ? Vous diriez que vous êtes juste un homme hétérosexuel, ou...
Oui. Enfin, pas ces dernières années. J'étais plutôt un moine.
D'accord, d'accord. Mais dans le passé, autrefois, vous vous considériez comme un...
Oui, c'est vrai. Et c'est prouvé.
Oui, d'accord.
Je veux dire...
Mais les gens ne diraient-ils pas, désolé d'insister, mais je pense que c'est important, qu'il y avait des garçons dans les deux cas, et puis ce cas-ci.
Pourquoi des garçons ?
Un simple accident, c'est arrivé comme ça ?
Je n'en ai aucune idée.
D'accord.
Aucune.
D'accord.
Vous avez eu un accident, n'est-ce pas?
Une blessure par balle.
Oui, c'est vrai. J'avais une licence de marchand d'armes à Victoria. Mon partenaire de l'époque et moi avions acheté un Beretta 32 qui avait un problème de chargeur. Et, c'est bête, il chargeait le canon avec de vraies balles. Et l'une d'entre elles est partie. J'ai pris la balle juste ici. J'ai dû aller à l'hôpital pour la retirer. Elle avait traversé mon crâne, fait quelques dégâts. Elle est descendue par ma gorge, puis s'était logée dans ma nuque.
Ça a entraîné de nombreux trous de mémoire, c'est ça?
Je pense qu'on peut plutôt dire que c'était des périodes où mon cerveau n'enregistrait rien.
D'accord.
Jim O'Neill est en prison pour un meurtre dont il affirme ne pas se souvenir à cause de cette blessure par balle. Mais j'avais le sentiment que ces problèmes avaient commencé bien plus tôt.
C'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un qui est déjà antisocial, d'avoir des dégâts au lobe frontal, parce qu'il a déjà un contrôle limité de ses pulsions. C'est dans le lobe frontal que l'on trouve le contrôle des pulsions. Donc, si vous lui retirez ça, il va devenir encore plus désinhibé qu'avant, encore plus impulsif.
Les documents du procès m'ont appris qu'enfant, Jim O'Neill était déjà un cas particulier. On parle de cruauté animale, de mensonges, d'incendies criminels et d'absentéisme scolaire. En outre, l'un des psychiatres a fortement suggéré que Jim lui-même avait été victime d'abus sexuels dans son enfance, probablement par l'un de ses proches. Vous avez parlé de votre père. Quelle était votre relation avec votre mère? Vous avez dit que votre relation avec votre père était plutôt bonne, et vous vous entendiez pas trop mal avec votre mère, c'est ça? Comme si, comme ça?
C'est ça.
Pourquoi? Vous n'étiez pas assez proche? Trop proche?
Écoutez, on peut parler d'autre chose.
Son langage corporel est très intéressant. La tête va à gauche, il va mentir. La tête va à droite, comment vais-je m'en sortir?
Exact.
Après l'accident par balle à Victoria, pouvez-vous me raconter ce qu'il s'est passé chronologiquement?
Non, Gordon, je ne peux pas.
Pardon?
Eh bien, si je parle de ça, ça va me causer des problèmes.
Jim n'a pas comparu au jugement pour les garçons de Victoria. Il est parti vers l'ouest et a disparu des radars pendant un certain temps. Au début, Jim parlait ouvertement de son séjour dans l'Ouest australien. Il m'a raconté qu'il avait travaillé dans des fermes d'élevage autour de Fitzroy Crossing, puis, pour une raison inconnue, il est devenu très évasif. Il a déclaré, sur conseil de son avocat, qu'il ne pouvait pas dire où il était allé, ni quand il s'y trouvait. Il m'a dit qu'il craignait qu'un jour la police trouve quelque chose et y dissémine son ADN. Seul un homme qui a quelque chose à cacher ferait un tel commentaire. Quel est votre vrai nom?
Bridgar. Bridgart.
Et votre prénom?
Lee Anthony. Leigh.
Pourquoi avez-vous changé?
Je ne sais pas vraiment. Je n'ai jamais dissimulé mes déplacements, Gordon. Je veux dire, vous savez, mes amis, ma famille et tout le reste savaient exactement où j'étais et ce que je faisais.
J'ai parlé à des gens dans le Nord et j'ai été surpris de voir que beaucoup se souvenaient de Jim O'Neill. Il passait apparemment beaucoup de temps à traîner au pub de Fitzroy Crossing. C'est là qu'il a rencontré, puis épousé, une jeune barmaid tasmanienne. Je suis tombé sur un type qui a assisté au mariage.
Eh bien, je suppose que la première fois que je l'ai vu, il arrivait tout juste à Fitzroy Crossing, et il n'y était pas pour quelque chose en particulier. Il est juste resté au bar pendant un certain temps. C'est à ce moment-là qu'il a rencontré Carole, l'une des barmaids. Et ils ont fini par se marier. Aujourd'hui encore, je ne sais pas si quelqu'un a pris les devants et a raconté à Carole ce que les gens disaient de son mari ou de son futur mari. Je travaillais alors pour le ministère de l'Agriculture, au centre de recherche. On avait un centre de recherche à 35 km de la ville, et du jour au lendemain, il s'est retrouvé manager là-bas. C'est sûr que ça ne me ravissait pas de travailler pour lui.
Comment a-t-il obtenu ce poste ?
Jim était un beau parleur. En fait, il racontait n'importe quoi. Alors, il y était allé et avait débiné ses histoires. C'est ce qu'il m'a raconté, et ils n'ont probablement pas fait de vérification.
Avez-vous remarqué une cicatrice sur la tête de Jim ?
Oui, il nous en a parlé. Il avait pris une balle et nous a raconté que c'était arrivé au Vietnam. Apparemment, la balle est entrée ici et est ressortie par l'arrière de la tête. Et c'était une blessure de guerre du Vietnam selon lui.
J'ai eu au téléphone un vieil homme qui avait été juge de paix là-bas. Il n'avait pas de temps à consacrer à Jim. Et il y avait autre chose. Il m'a parlé de la mort non élucidée d'un garçon autochtone en novembre 1973. Un autochtone ? S'agissait-il d'un jeune homme ?
Oui, on l'a retrouvé attaché à un tronc d'arbre, avec du fil barbelé. On l'a d'ailleurs retrouvé accroché à un arbre quand la rivière s'est retirée. Mais, à ce que je sais, on a juste considéré ça comme un meurtre tribal.
Il n'y avait aucune archive évoquant la mort du garçon. Pas d'enquête officielle, pas d'article de journal, rien. Et il était évident que certaines personnes n'appréciaient pas que j'évoque le sujet. Y a-t-il eu là-bas des décès qui vous ont semblé suspects à l'époque où O'Neill y était ?
Non, il y avait... Je sais pas, il y avait eu une personne noire attachée à un tronc qui flottait sur la rivière, mais c'était une sorte de repère pour hommes de couleur. C'était le genre d'histoire dont personne ne s'inquiète.
Mais ça avait manifestement un lien avec Jim, alors...
Où avez-vous entendu cela ?
Oh, c'était lui et son ami aux courses qui avaient eu affaire aux amis de Jim.
La communauté de Malaga est située à proximité de certains des centres où Jim avait travaillé. Quelques anciens se souvenaient de lui, mais ce sont des gens gentils, donc j'ai eu l'impression qu'il ne dirait pas de mal de qui que ce soit.
Il a toujours été discret.
Vous souvenez-vous de son nom ?
Jim, c'est ça ?
C'est ça.
Connais pas son nom de famille, mais on l'appelait comme ça.
Oui, Jim O'Neill. Vous rappelez-vous quel genre de gars était cet homme ?
C'était un bon gars.
Certains d'entre eux donnaient l'impression que Jim n'était qu'un blanc comme les autres. Mais j'avais la conviction que quelque chose ne collait pas. Les choses sont devenues plus claires lorsque j'ai parlé au propriétaire de Fossil Downs, l'un des grands centres où Jim avait été employé un certain temps comme magasinier. Pour quelqu'un qui n'y a travaillé que quelques mois, il y a plus de 30 ans, il semble leur avoir fait une sacrée impression.
Nous n'avions rien à redire sur le travail de Jim. C'est davantage l'aspect éthique, je suppose, qui nous a incités à le renvoyer. Ça avait fini par se savoir, parce que les Autochtones ne savent pas garder de secrets. Elles ont raconté que Jim s'achetait leur faveur avec du bacon et des boissons.
Vous reconnaissez ce titre ?
Jim O'Neill. Un employé d'une autre propriété m'a dit que c'était lui. Le coup des enfants Beaumont, en Australie-Méridionale. À l'époque, je pensais qu'il était trop jeune pour être impliqué. Et je n'y ai pas vraiment prêté attention.
un autre jeune garçon aborigène a été retrouvé mort dans la rivière, aux alentours de Fitzroy Crossing. Est-ce qu'on vous a dit quelque chose à ce sujet ?
Non, non. C'est juste. On entend parler de gens qui meurent, mais... On en a sûrement entendu parler, mais pas dans les détails. Si c'est le cas, on a oublié. Enfin, moi j'ai oublié.
Il me semblait que vous m'aviez dit au téléphone que l'un des employés vous avait raconté que Jim avait parlé de tuer un garçon aborigène.
Non, non. Je n'ai rien dit. Ce n'était pas moi. Parce que je ne sais rien à ce propos.
Il s'est excusé auprès de moi le lendemain. Il a dit qu'il y avait des choses qu'il valait mieux ne pas dire. J'ai décidé de téléphoner à Norm Adams. Il avait été policier à Fitzroy Crossing. Et lorsque je lui avais parlé quelques jours plus tôt, il avait mentionné le garçon dans la rivière. Le fil barbelé, oui, vous pouvez m'en dire plus ? Jamais entendu parler ? D'accord, si vous n'en avez jamais entendu parler alors. Norm ne voulait pas parler, mais j'ai découvert qu'il y avait un autre policier à Fitzroy Crossing à l'époque où Jim y était. Il est décédé il y a quelques années, mais sa femme a accepté de me voir. Elle ne se souvenait pas du garçon dans la rivière, mais elle avait beaucoup à dire sur Jim O'Neill.
Dès que Trevor a rencontré Jim O'Neill, il a dit « J'ai pas confiance en ce type. C'est un homme rusé. Ça se sent à des kilomètres. » Il a dit « Il y a quelque chose qui va pas chez ce type. » Il n'aimait pas sa façon de fréquenter les enfants, en particulier les garçons de Norm Adams. Une fois, il a demandé à Norm de laisser ses garçons, ils avaient une fille, Vicky, un peu plus jeune, passer la nuit là-bas. Trevor a dit à Norm de ne pas les laisser y aller, mais il l'a fait. Trevor était très très en colère à ce propos. Nous sommes allés là-bas le lendemain et avons organisé un barbecue, une journée un peu stressante. Carol était terriblement bouleversée. Elle pensait que le mariage était une sorte d'imposture. Elle n'a pas dit ouvertement qu'il l'avait frappée, mais elle l'a clairement laissé entendre. Il aimait raconter des histoires invraisemblables. Il avait évoqué sa blessure à la tête. Évidemment, quelqu'un l'avait questionné à ce sujet. Il avait raconté cette histoire, le petit ami de sa mère était un gangster et il lui avait tiré une balle dans la tête.
Jim O'Neill a raconté un tas de mensonges lorsqu'il était dans le Kimberley. Outre le fait qu'il ait raconté être driver alors qu'il ne savait pas monter à cheval, il a également prétendu qu'il était comptable, vétéran du Vietnam, avocat non avéré et même agent du renseignement australien. De l'avis général, Jim n'était pas un bon manager et le département l'a finalement muté à Derby. Sa femme était alors enceinte de 3 mois. Il a quitté Fitzroy Crossing en août 1974. Quelques semaines après son arrivée à Derby, un jeune garçon a disparu sans laisser de traces.
Il y a quelques années, un ami m'a raconté qu'un petit garçon était allé faire une commission à l'heure du thé. Et n'était jamais rentré chez lui. Je ne me souviens plus de l'année. Je me rappelle juste qu'il m'avait raconté ça. Et ça m'est resté en tête depuis. Ce type m'a dit que le garçon avait 12 ans lorsqu'il a disparu. Le magasin où il se rendait a fermé depuis bien 10 ans, peut-être plus.
Selon un avis de disparition, ce garçon a été vu pour la dernière fois, en train de monter dans une voiture conduite par un Européen, à l'extérieur du magasin Elder à Derby. Il sortait tout juste du magasin local. C'était exactement le même déroulement qu'en Tasmanie. Le premier garçon a disparu après être allé chercher une cartouche de cigarette pour son père. Le deuxième garçon allait chercher une brique de lait. Jim n'est resté à Derby que quelques mois. En novembre, il s'est installé avec sa femme en Tasmanie. À l'époque, c'était le seul état du pays où il ne s'était jamais rendu. Il a tué le garçon d'Eagle Neck au début du mois de février 1975. Le jour même, il a ramené sa femme et son fils nouveau-né de l'hôpital.
Nous sommes venus directement du Kimberley jusqu'ici. Nous sommes arrivés, je crois, vers la mi-novembre 1974, et j'ai été incarcéré le 2 mai 1975. Donc ça n'a pas été long.
L'un des détectives qui ont arrêté et inculpé Jim O'Neill est aujourd'hui commissaire de police de l'État de Tasmanie. Au début de l'année 1975, il était un jeune inspecteur, lorsqu'avec son partenaire, ils ont pisté Jim et sa femme jusqu'à un motel de Launceston. Fidèle à son habitude, Jim était sur le point de quitter l'État.
Lorsque le deuxième garçon a disparu, il était en route pour aller chercher le journal. Et sa disparition a suscité beaucoup d'inquiétudes. Il y avait de la colère, de la peur. Les médias ont beaucoup spéculé sur l'existence d'un tueur en série en Tasmanie. Et bien sûr, cela s'est avéré être le cas. Nous avons découvert qu'au cours des 15 jours qui ont précédé la disparition du deuxième garçon, il y avait probablement 4, voire 5 autres enfants qui avaient été emmenés en voiture dans des endroits isolés et qui avaient réussi à échapper à la personne qui les avait enlevés et à s'en sortir relativement indemne. À l'époque, O'Neill était barman à l'hôtel Louvre, l'hôtel d'Eagle Hawk Neck. Évidemment, il était très impliqué dans le processus de recherche du garçon et a offert toutes sortes de conseils et d'assistance. Mais l'enquête a montré par la suite qu'il avait enlevé le garçon le jour où il devait ramener sa femme de l'hôpital où elle venait d'accoucher de leur premier enfant. Il a manifestement vu ce gamin jouer dans l'allée et l'a fait monter dans sa voiture. Il l'a emmené sur une piste de brousse extrêmement longue et isolée, a eu des rapports sexuels avec lui, puis lui a infligé de sérieuses blessures à la tête avec une pierre. Nous avons visité les sites clés, les sites où les corps avaient été laissés, les sites où certains vêtements avaient été cachés. Les photos que nous avons prises le montrent absolument détendu, une cigarette à la main, très distant de tout ce qui se passait. À tel point que, en arrivant enfin sur cette longue piste de brousse envahie de végétation et quasi impraticable, quand nous avons trouvé le premier enfant, O'Neill a marché sur les restes et il n'a pas dit « il est ici » ou « Ricky est ici ». Il a dit « c'est ici ». Il n'a montré aucune forme de remords. Il n'a jamais versé une larme sur ce qu'il avait fait à ses enfants.
Pourriez-vous m'expliquer ce que vous entendez par « cela ne serait jamais arrivé » ? Je parle des charges qui vous ont fait vous retrouver ici.
Le chef d'accusation était le meurtre. Et la victime était un enfant. Et plus tard, en y réfléchissant, j'ai eu beaucoup de peine pour ce jury. Parce que le tribunal n'aurait pas pu prendre une décision. Une décision juste. Parce que personne dans ce tribunal ne leur a donné les informations dont ils avaient besoin. C'était un ramassis de conneries de la part de la défense. Et de l'accusation.
Le procès de Jim était terminé après 4 jours. Il a été condamné à une peine de prison à vie.
J'ai soutenu, et je soutiens toujours, que je n'ai aucun souvenir de l'événement. Je ne veux pas dire que j'en ai des bribes, je n'ai aucun souvenir. Et je pense que, quoique...
28 ans plus tard, Jim O'Neill se justifie encore avec ses trous de mémoire. Même s'il s'est avéré qu'il avait persuadé sa femme de lui créer un faux alibi. Il s'était aussi débarrassé de ses vêtements tachés de sang. Par après, il a conduit les inspecteurs jusqu'au corps, caché dans des buissons.
Il est possible qu'il ait eu des trous de mémoire à un moment donné. Il a subi un grave traumatisme crânien et une méningite. Il y a eu quelques occurrences, peu de temps après sa maladie, qu'on pourrait qualifier d'une forme d'épilepsie. Il y a un risque assez élevé pour une personne ayant subi un traumatisme crânien avec perforation et une méningite. Il est donc hautement disposé à l'épilepsie. Mais je suis incapable de concevoir une situation où l'on se livre à des activités aussi complexes que l'enlèvement d'un enfant et son meurtre tout en étant atteint d'épilepsie. Ce serait un cas unique.
Jim m'a dit qu'il avait eu au moins 8 ou 9 de ces trous de mémoire alors qu'il voyageait à travers le pays. Il avait déjà utilisé cette excuse pour l'incident en Tasmanie. Et je me suis demandé ce qu'il cachait d'autre.
Je pense que la fois la plus marquante, c'est quand je me suis retrouvé dans l'ouest de l'état de Victoria, assis sur une plage, vêtu d'un costume, un costume cravate. Assis au bord de l'océan, avec les vagues qui s'échouaient autour. C'est à ce moment précis que j'ai pris conscience de l'endroit où je me trouvais. Et pourtant, je n'aurais pas pu vous dire comment j'étais arrivé là, ni ce que j'y faisais.
Combien de temps avait duré cette période d'amnésie ?
Eh bien, probablement dans les 24 heures.
Lorsque nous avons commencé à vérifier l'historique des lieux où il s'était rendu, on a trouvé, de mémoire, 7 ou 8 enfants aux histoires totalement similaires dans divers endroits d'Australie qui avaient disparu sans qu'on les retrouve jamais.
Je vais vous poser une question très difficile. Ne répondez que si vous le souhaitez. Est-ce que parfois, vous vous demandez ce que vous avez pu commettre ? Au pire de vos trous de mémoire ? Vous arrive-t-il de vous inquiéter, puisque vous ne vous souvenez pas, des autres choses qui ont pu se produire lors de vos plus gros trous de mémoire ?
Eh bien, oui, tout à fait. Mais là encore, on n'a rien découvert.
D'accord. Après la condamnation à perpétuité de Jim O'Neill en Tasmanie, la police des autres États a commencé à fouiner. J'ai mis la main sur une correspondance entre la police d'Australie-Méridionale et l'agent en charge de Fitzroy Crossing. Ces lettres m'ont fait me demander pourquoi l'État de Victoria avait-il libéré Jim sous caution ? Et comment se fait-il que les polices de trois États n'aient jamais échangé d'informations avant son arrestation en Tasmanie ? Les dates figurant dans ce document ont un lien évident avec la disparition de deux jeunes filles au stade de l'Oval d'Adélaïde le 25 août 1973. Et il y a eu un enlèvement avec vol commis sur un jeune garçon à Elizabeth le 10 janvier 1974. Et la veille, un autre petit garçon avait été enlevé et violé. Le second document est adressé au sergent Charrette. Voici une partie de ce qui est indiqué. Nous sommes sur la trace d'O'Neill depuis qu'il a été libéré sous caution à Melbourne il y a plusieurs années. Malgré 13 chefs d'accusation pour enlèvement et attentat à la pudeur sur de jeunes garçons. Il a changé de nom, puis il s'est enfui vers l'ouest. Et, comme vous le savez, il a maintenant franchi le cap et a tué deux garçons en Tasmanie. Et Dieu seul sait combien d'autres enfants il a abusés au cours de ses voyages. Pour je ne sais quelle raison, il nie s'être jamais rendu en Australie-Méridionale. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la police d'Australie-Méridionale recherchait O'Neill depuis qu'il avait fait défaut de comparution en 1971. C'était avant les incidents mentionnés dans les lettres. Cela m'a fait penser qu'il voulait peut-être lui parler d'autre chose. D'un événement qui s'était produit alors qu'il voyageait entre Melbourne et Coober Pedy au milieu des années 60.
La disparition des enfants Beaumont sur la plage de Glenelg à Adélaïde est le mystère le plus déconcertant de l'histoire criminelle australienne. C'était le jour de la fête nationale australienne, en 1961, et la température dépassait les 40 degrés. Les trois enfants, âgés de 9, 7 et 4 ans, sont allés à la plage et n'ont jamais été revus. La dernière fois qu'on les a vus, c'était dans un snack bar du bord de mer.
Au cours de mes recherches, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit que Jim O'Neill avait avoué être impliqué dans la disparition des enfants Beaumont. Malheureusement, les témoins de l'époque sont décédés. Je me suis donc rendu à Adélaïde pour m'entretenir avec Brian Swan, responsable de l'enquête sur l'affaire Beaumont.
En page 3, commerce d'opale à Cooper Pedy. Comme vous le savez, Cooper Pedy se trouve en Australie-Méridionale. C'est là qu'il y aurait un possible lien avec l'affaire Beaumont, ses déplacements dans le sud.
Oui, il était fasciné, très fasciné par Cooper Pedy, et il a abordé le sujet à de nombreuses reprises. Et il n'a jamais mentionné Adélaïde. Il parlait d'aller de Melbourne à Cooper Pedy, et deux ans après avoir commencé à lui rendre visite. Je lui ai dit, vous passez par où, de Cooper Pedy à Melbourne? Il m'a dit, vous devez passer par Adélaïde. C'était la première fois qu'il mentionnait Adélaïde. Et je me suis dit que c'était bizarre.
Était-il en Australie-Méridionale en 1966? Il est noté, fin des années 60 et début des années 70.
Il y était sans aucun doute déjà en 65 et en 66.
Plus précisément, avez-vous parlé de la disparition des enfants Beaumont?
Je lui ai dit à une occasion que j'avais entendu dire qu'il avait dit à d'autres personnes, et surtout qu'il était responsable de l'assassinat des enfants Beaumont en 1966. Il m'a répondu, « Je n'aurais pas pu faire ça. J'étais à Melbourne à l'époque. Ce qui m'est resté à l'esprit, c'est qu'il ne l'a pas nié. » Je ne sais pas si Jim O'Neill a tué les enfants Beaumont ou non. Je sais qu'il a dit à d'autres qu'il l'avait fait. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il se trouvait en Australie-Méridionale, en 1966. Je sais aussi que, durant nos entretiens, quand il évoquait ses voyages, il n'a jamais mentionné Adélaïde. Il avait tout juste 19 ans en 1966, mais il ne faut pas oublier qu'il n'en avait que 15, au moment de l'incident de la rivière Johanna, en 1962. La région de la rivière Johanna a une importance particulière pour Jim O'Neill. Il en a parlé tant de fois. La plupart du temps, il évoquait la pêche et la chasse. Bien qu'à mon avis, lorsqu'il parle de ces deux choses, il parle en fait de meurtre.
Je les ai regardés rassembler leurs affaires et descendre l'allée qui longe l'enclos des vaches. On a frappé à la porte, et ma mère est allée ouvrir. Elle est revenue et a dit que Lee voulait me parler. Je suis allée sur le seuil, et il m'a demandé de sortir. Il a fermé la porte derrière moi et m'a prise à part, près du vieux réservoir. Je me tenais là, et il m'a demandé si j'en avais parlé à quelqu'un. J'ai fait non de la tête. Et il a dit, on l'a enterré. Et je crois que j'ai demandé, car je me souviens qu'il m'a dit, de l'autre côté de la rivière, en face de là où on a campé. Et c'était... J'ai demandé si l'autre garçon était avec lui. Alors il a tourné la tête et j'ai vu la voiture garée dans l'allée. Il était assis dedans, il nous observait. Il a détourné le regard, et lui a dit qu'il devait partir. Il s'est éloigné, est monté dans la voiture et ils sont partis. Et je les ai regardés remonter la route et disparaître au loin. Et c'est seulement après l'école, ou le week-end, dans les jours qui ont suivi. Nous sommes partis marcher le long de la rivière à la recherche de ce qui pouvait être une tombe.
Je sentais que l'endroit où j'avais le plus de chances de prouver que Jim avait tué d'autres enfants était la ferme laitière de Johanna. J'ai contacté la police de l'État de Victoria et leur ai dit que j'allais essayer de localiser un corps. La zone de recherche couvrait environ un demi-hectare de plaine inondable. Elle était envahie de mauvaises herbes et de mûriers. Les saules qui bordaient la rivière, lorsque Jim et son ami s'y trouvaient en 1962, avaient été récemment coupés et empilés en andins.
Vous l'avez vu tourner?
Qu'en pensez-vous?
C'est plutôt bon signe, je pense.
Il dit que c'est là qu'il a eu son plus gros trou de mémoire. Lorsqu'il s'est réveillé, il était assis sur la berge, avec les vagues qui l'entouraient. Ses vêtements étaient boueux et déchirés, comme s'il avait creusé. Il affirme qu'il n'a aucune idée de comment il s'est retrouvé là, et qu'il a eu un trou noir qui a duré plus de 24 heures. Les experts à qui j'ai parlé de ces soi-disant trous de mémoire sont tous d'accord. C'est un code qu'il utilise pour parler des moments où il a commis de graves infractions. Quarante ans, c'est long pour un petit corps enterré dans le sol. Il est possible que nous l'ayons manqué de quelques centimètres, ou même que Jim l'ait déplacé ultérieurement.
Quoi qu'il en soit, je reste convaincu que lorsqu'il avait 15 ans, il s'est passé quelque chose d'important ici.
Peut-être même son tout premier meurtre.
Les psychopathes sont des personnes qui aiment contrôler d'autres êtres humains, qui aiment souvent contrôler la vie et la mort. Ici, nous avons un homme. Il nourrit des vers, et il les donne ensuite à manger, à des rongeurs. Pour un psychopathe, le symbolisme est énorme. Il vous dira ce qu'il veut que vous sachiez à certains moments. Mais je ne doute pas qu'il soit capable de se persuader lui-même qu'il n'a rien fait de mal. Jim et vous allez tous deux à la pêche et à la chasse. Mais Jim va encore plus loin. Il chasse aussi les êtres humains. C'est ce qu'il a fait en tuant ces deux garçons, et je pense qu'il l'a fait auparavant.
En début d'année, je me suis rendu à Hesse pour parler à Jim O'Neill. Je voulais lui poser des questions sur ce qu'on m'avait dit de lui. Il a perdu son sang-froid et est parti en criant « J'arrête tout ». Vous essayez de me piéger. Pendant ces 3 années, Jim et moi avons beaucoup discuté. Mais pour l'instant, il semble que mes questions resteront sans réponse. Elles le resteront peut-être à jamais, mais cela ne signifie pas que je vais arrêter de les poser. Ce que je préfère, c'est de pêcher dans des criques ou des ruisseaux, là où on peut observer l'eau et déterminer où le poisson se trouve, où il est possible qu'il soit. Avec un petit hameçon, peut-être même qu'il ne me faudra qu'un seul appât.
C'est vrai, quand je repense à mes meilleures prises, en particulier celles que j'ai prises par ici, Souvent, j'avais la tête dans la lune. Ou alors, je ne faisais pas vraiment attention. J'ai juste lancé ma ligne, avec un Tassie Devil, un appât qui vous donne une certaine distance. Je n'avais aucune finesse, aucune habileté particulière. L'appât a juste atterri dans l'eau, pile à côté d'un saumon affamé. Sans prise de tête, parfois juste en mettant un verre, sur un hameçon tout simple.
James Ryan O'Neill a aujourd'hui 56 ans. Il a passé 28 ans en prison et est actuellement le plus ancien prisonnier de Tasmanie pour un même crime. Sa dernière demande de libération conditionnelle remonte à 1996. Dans ce rapport, il y a un extrait d'une lettre écrite par le procureur de la Couronne en 1975. À mon avis, cet homme est extrêmement dangereux et toute question relative à sa libération doit être abordée avec la plus grande précaution. En outre, toute personne envisageant de libérer O'Neill devrait, à mon avis, se renseigner auprès des polices de Victoria et d'Australie-Occidentale.